Ils essayaient de voir un petit peu les facteurs qui sont liés à ça, enfin les facteurs de prévention. Et on est à peu près à 14 facteurs de risque sur lesquels on peut agir séparément ou en association pour limiter le retarder ou limiter le développement des maladies neurocognitives. Alors, je vais partir d'un des éléments les plus précoces et qui est important, c'est la stimulation cognitive tout au cours de la vie. C'est-à-dire, en fait, ça va être la stimulation, mais pas juste sur les 1000 premiers jours, hein, c'est la stimulation sur les 25-30 premières années, et après, le fait de maintenir aussi cette stimulation. Des études ont montré qu'en fait, en fonction du niveau d'études et après ce qu'on fait au niveau professionnel, au niveau social, on va pouvoir avoir une limitation du développement de risques de troubles cognitifs. Donc, il y a une sorte, on se crée une marge qui fait qu'il va falloir plus de lésions histologiques au niveau cérébral pour que ça commence à parler cliniquement. Donc, cette marge, on l'expliquera tout à l'heure. Voilà. Et ce qui est intéressant également dans cette étude qui était parue en 2021 dans le British Medical Journal, c'est qu'ils avaient analysé aussi l'impact sur certaines protéines plasmatiques qui étaient susceptibles d'avoir un effet négatif ou positif en fonction de leur taux sur le développement des gènes et sur le développement des synapses. Donc ça, c'est un élément important et on voit les interactions entre les deux éléments. Et qu'est-ce qu'on voit? Alors là, c'est une étude sur le niveau de stimulation de votre cerveau en fonction de votre profession. Et on voit alors, cette fois, si je peux montrer là-dessus, que vous allez gagner à peu près 5% de risque ou de baisse de risque ou de sur-risque en fonction de niveau de stimulation de cerveau au niveau professionnel. Donc ça, c'est un élément important, c'est-à-dire que même après avoir fait vos études, il y a un impact de fait de continuer à faire travailler son cerveau. Là, le fait de venir aujourd'hui, vous faites travailler votre cerveau. Vous avez du lien social, vous avez écouté, vous essayez de comprendre, vous avez des questions. Voilà, ça, c'est très, très utile. Et autre élément, le cumul. Ils sont allés plus loin, c'est le cumul. C'est compliqué avec les deux écrans. Éducation, travail. On voit si on a un niveau d'éducation faible, un niveau de travail de cerveau qui va être très peu stimulé par le travail. Ils prennent ça comme niveau de base. Et plus en fait vous allez stimuler soit par le travail, soit par l'éducation, plus vous limitez en fait votre risque de développer un trouble neurocognitif. Donc il y a un effet cumulatif de ce qu'on fait au départ et ce qu'on fait après. Donc ça, c'est un élément très important. Et également, on voit que la stimulation cognitive va avoir un impact sur les taux plasmatiques de certaines protéines qui sont susceptibles d'avoir un effet négatif en fait, sur votre axonogénèse et synaptotégénèse. Donc, en fait, ça, c'est un élément, l'interaction entre les deux est très intéressante. Et alors, stimuler son cerveau, c'est OK, c'est du boulot, mais c'est aussi avoir des activités variées, non répétitives. C'est-à-dire que si vous faites les mots croisés toujours dans la même revue, vous allez voir très rapidement que ça devient un peu un automatisme parce qu'il y a sûrement de l'IA derrière et que c'est toujours un peu les mêmes trucs. Donc changer. Voilà, la lecture, le cinéma, les rencontres, le jeu, le sport, sans les traumatismes crâniens quand même, parce que ce n'est pas exceptionnel. Regardez les rugbyman, ils s'en plaignent après à la radio. Le jardinage, le voyage, parce que le voyage, il faut programmer un voyage, il faut programmer un week-end, c'est une tâche complexe. Il faut savoir avec qui on va y aller. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on prend une voiture? Pas une voiture? Est-ce qu'on loue un truc? Qu'est-ce qu'il va ramener à manger? Et tout ça nécessite pas mal de tâches. Voilà. Et si on a une action sur tout le côté d'éducation, plus le niveau d'éducation est bas, plus on augmente en fait le risque cognitif. Et donc ce risque cognitif va être augmenté, donc c'est le RR1,6, c'est-à-dire qu'en gros, par rapport à quelqu'un qui a très très peu de stimulation par rapport à ceux qui ont le maximum de stimulation, vous avez un facteur de risque d'à peu près 60% en plus ou en moins selon le sens que vous allez agir. Et ça correspond à peu près à 5% des cas de troubles cognitifs qui seraient liés à un niveau d'éducation faible. Alors ça ne crée pas les lésions, ça peut en protéger un peu, on a vu, mais surtout c'est un effet de marge par rapport à le nombre de lésions qu'il va avoir besoin pour entraîner une visibilité clinique. Autre élément, les troubles auditifs. Donc on n'est pas dans le médicamenteux, dans le chimique, là, on est d'accord. Bon, OK, il y a un petit peu de grosses entreprises qui vendent des laboratoires qui vendent de l'audition, mais ce n'est pas inutile. Quand on a des troubles d'audition non appareillés, qu'est-ce qu'on a? Ma montre qui n'est pas d'accord. On a donc une augmentation du risque de développer un trouble neurocognitif. D'accord? Si on appareille, on baisse, et qui marche l'appareil, on baisse en fait ce niveau de trouble cognitif. Voilà, donc plus on va s'appareiller tard, plus en fait on va, pour de multiples raisons, majorer le risque de développer des troubles cognitifs. À nouveau, le cerveau, c'est, enfin, je vais prendre un exemple parallèle, pas toujours évident, le cerveau c'est comme un muscle, si on ne le nourrit pas, en entendant bien ou en voyant bien, automatiquement, il y a moins de stimulation et du coup, on a moins de marge pour faire face aux lésions. Donc, mieux entendre son conjoint, ça peut être intéressant. Bon, je vois qu'il y a un peu de remous. Bon, parfois, ça peut être intéressant. Mettre de la nuance. Après, sur les facteurs de risque, on en a beaucoup parlé en fait, depuis le départ. Il y a un lien très fort, et je l'ai mis là en cartouche, le meilleur ami de notre cerveau, c'est notre cœur, donc en gros le cardiovasculaire. Il y a une très forte interaction entre cardiovasculaire et le développement des troubles cognitifs, et pas que les troubles cognitifs vasculaires. Également, sur les troubles cognitifs d'Alzheimer, il y a des liens très très forts. Donc en fait, plus on va agir sur les facteurs de risque vasculaire connus, plus on va limiter le risque de développer. Alors, je dis, pour ne pas inquiéter tout le monde, ce n'est pas parce que vous avez une hypertension qu'automatiquement vous allez avoir une maladie d'Alzheimer ou que vous avez un diabète que vous allez avoir une maladie d'Alzheimer. C'est des statistiques sur une population. C'est plus de risque, si vous avez un diabète ou d'hypertension, de le développer. Mais plus elle est traitée, plus c'est pris en charge, plus c'est dépisté précocement, plus vous limitez en fait, l'impact de ces maladies sur le fonctionnement du cerveau et notamment de la tuyauterie vasculaire cérébrale. Donc, ce qui est très très démontré, c'est l'impact du LDL cholestérol, qui est un cholestérol qui est considéré comme le mauvais entre guillemets, et qui a un impact important. Après, on a des éléments que vous connaissez, le tabac, mais l'alcool aussi. J'insiste un peu sur l'alcool, puisque pendant des années, notamment suite aux études PACUID, on nous avait dit que ne pas boire, c'était pas bien pour la santé, boire trop, c'était pas bien. Il fallait boire entre les deux. Les études ont montré que, en réanalysant les données, que le fait de boire posait un problème dès le départ, parce que ceux qui ne buvaient pas du tout, c'était ceux qui n'avaient jamais bu, ou ceux qui avaient bu de façon excessive et qui avaient arrêté parce que le médecin leur disait d'arrêter. Et donc, quand on tenait compte de ce biais, automatiquement, l'alcool n'était plus un facteur protecteur. Et après, c'est toujours une question de quantité. Donc, l'alcool est un facteur de risque vasculaire également. Puis après, on a le diabète, l'hypertension, l'obésité, l'inactivité physique. Et l'inactivité physique, c'est quoi? C'est les études ont montré que, alors c'est pas les 10 000 pas par jour, c'est 10 000 pas par jour pour certains, ça peut être un peu moins en fonction de votre âge, de vos comorbidités, tout ça. Il y a toujours un impact positif à faire, à bouger son corps, et déjà à commencer par marcher. L'alimentation. Alors l'alimentation, on en parle beaucoup, ça a sûrement un impact. Le problème, c'est que c'est extrêmement difficile à démontrer. Parce qu'entre ce qu'on observe en population, c'est-à-dire l'impact en population, on voit que ceux qui mangent moins gras, moins sucré, moins salé, ben, ils ont l'air d'aller mieux que les autres, d'accord ? Mais le démontrer au niveau individuel et montrer qu'au niveau individuel, on va avoir un effet, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et probablement qu'il faut des études très longues sur des cohortes très importantes. Voilà. Donc ça, c'est un élément qui fait que d'un côté, on en parle beaucoup, de l'autre côté, le niveau de preuve, il existe, mais il n'est pas non plus d'un niveau élevé. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut aller manger à McDo en sortant d'ici, ça veut dire qu'il faut... là, on est sur la science, c'est ce qu'on peut démontrer la science et ses limites. Voilà, donc les régimes alimentaires riches en fruits, en légumes, en noix, en grains entiers, faibles en aliments ultra transformés, en gros des régimes type méditerranéen ou régime MIND, sont intéressants. Vous verrez d'ailleurs sur le site de la fondation qu'il y a en fait il y a un lien qui vous permet d'avoir un questionnaire en fonction des habitudes alimentaires, de voir où vous en êtes au niveau du score, donc pas inintéressant. Voilà, et donc le régime MIND, c'est en fait c'est un mélange entre le régime méditerranéen et puis un régime DASH qui est plus centré sur l'hypertension, sur réduction de l'hypertension. Voilà, donc après les acides oméga-3, les aliments en transformant en a déjà parlé tout à l'heure. En gros, ça peut être utile, mais le niveau de preuve est encore assez faible. Et là, c'est donc les questions qu'on va vous poser. C'est légumes verts, autres légumes, est-ce que vous prenez des baies, des poissons, non frits hein, quand même, des volailles sans friture, les fèves, des haricots, des céréales complètes, des noix, des fruits à coque, huile d'olive, vin rouge avec modération. Voilà, je mets plus d'un verre par jour. Vous voyez que c'est vraiment très très limité. Plus vous montez, plus vous avez un risque qui est majoré. À limiter les viandes, les sucreries, les plats industriels, les poissons, les œufs, pas les œufs, pardon, le beurre et la margarine. Et vous avez un score. Voilà. Donc en gros, il y a un certain nombre de choses qui sont bien démontrées, notamment sur le cholestérol. Les régimes méditerranéens pourraient être intéressants, mais isolément probablement insuffisants. Et surtout, 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 agir sur la prévention, le dépistage précoce de tous les facteurs de risque cardiovasculaire. Voilà, encore combien de temps? L'isolement social.
Vous avez encore du temps. 7 minutes, si vous le souhaitez.
Encore 7 minutes? Ça va, ok, ça va tenir. L'isolement social, c'est quoi? L'isolement social, c'est l'absence de. Si vous êtes isolé, vous n'avez pas de connexion avec les autres, vous n'avez pas de simulation. Et le cerveau, avant d'être un truc qui vous aide à mémoriser, c'est d'abord quelque chose qui vous aide à interagir avec le monde. Et moins vous avez d'interaction avec le monde, plus vous avez de chances en fait que ça ne se développe pas très très bien. Et que votre cerveau ne soit pas assez stimulé. Donc tout ce qui va être stimulation va être joué. Le fait de sortir de chez soi, de rencontrer des gens, de parler avec des gens, même pour parler de la pluie et du beau temps, c'est toujours intéressant. D'accord? Voilà. Donc si on évite l'isolement social, on va limiter d'à peu près un facteur de risque 1,6. Donc c'est-à-dire que par rapport à ceux qui sont peu isolés, par rapport à ceux qui sont très isolés, on monte de 60% le risque quand même, ce qui n'est pas négligeable. La dépression. Pour de multiples raisons, parce que la dépression joue aussi sur le fonctionnement cérébral, sur le développement cérébral et sur le développement de certaines lésions vasculaires, va être un gros facteur de risque de développement des troubles neurocognitifs. Alors là, il y a un biais quand même, en tant que psychiatre, je le signale, c'est que les dépressions à début tardif sont aussi parfois les premiers signes cliniques d'un dysfonctionnement cognitif, ce qu'on appelle les MBI, donc les Mild Behavior Impairments, donc des troubles comportementaux légers qui sont des portes d'entrée non cognitives, mais comportementales dans les maladies cognitives. Donc, probablement qu'il y a un biais et qu'il y a une surévaluation du risque. Ceci étant dit, quand vous êtes très déprimé, vous avez très peu de contact social, peu de stimulation cérébrale, et probablement que ça joue également. D'accord? Donc, être optimiste, ça joue aussi. Les échanges ce soir, il y a même le fait de s'engueuler, c'est aussi positif parce que ça veut dire une stimulation de son cerveau. Donc, vous voyez, par rapport à vos relations avec votre conjoint, tout est positif en fait, il n'y a vraiment pas de problème. Voilà, je vais juste vous expliquer un peu cette notion de réserve cognitive. Ouais, vous aurez moins de culpabilité ce soir, maintenant, c'est bon pour votre cerveau. Voilà, donc ça c'est la notion en fait de vieillissement normal. Alors je l'ai mis une pente qui pourrait être un peu plus douce. En gros, le vieillissement du cerveau, les capacités fonctionnelles vont peut-être un tout petit peu diminuer, mais n'atteindront jamais le seuil des compensations cliniques, simplement avec le vieillissement normal. Donc ce n'est pas normal d'avoir des troubles cognitifs avec l'âge. Vous rajoutez là-dessus une maladie cognitive qui peut être dans ce cas précis-là, maladie d'Alzheimer. Et donc il y a un moment donné, la maladie d'Alzheimer, elle va développer, mais il y a un moment donné, il va falloir pas mal de lésions pour que ça commence à parler cliniquement. Puis après, il peut y avoir des éléments intercurrents, grippe, etc., qui fait qu'à un moment donné, vous êtes confus. Mais ça, ce n'est pas le sujet, donc je ne vais pas en parler. Vous avez amélioré votre cognition du fait des stimulations dont j'ai parlé. Donc vous avez une marge. Cette marge, elle va être là. Et vous avez la même maladie qui se développe. Et vous voyez qu'en fait, vous allez retarder de quelques années l'apparition des signes cliniques de cette maladie d'atteinte de ce seuil. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle la réserve cognitive. Et ça, c'est donc le retard de l'apparition des signes cliniques. À l'inverse, vous avez moins bien fait travailler votre cerveau, vous avez la maladie cognitive qui se crève dessus, vous avez une moindre réserve cognitive et une apparition plus précoce des signes cliniques. Vous voyez que l'interaction est très forte entre les deux et ça peut jouer sur plusieurs années. Voilà, j'ai quasiment terminé. C'est pour vous montrer en fait les différents liens et en quoi ça peut impacter, pourquoi c'est efficace. Donc on a la notion de réserve cognitive qui est jouée par le niveau d'éducation, la prévention des troubles d'audition, des troubles visuels, l'augmentation des contacts sociaux, mais également la diminution d'alcool, l'activité physique, la prévention, traitement et dépression. Vous voyez, voilà, tout ça, ça va jouer sur l'augmentation de ce que je viens de vous démontrer. Mais vous avez aussi d'autres éléments qui vont jouer sur le côté développement de dommages vasculaires au niveau cérébraux. Donc essentiellement les facteurs dysvasculaires, mais aussi les traumatismes crâniens. La boxe, ce n'est pas bon du tout pour le cerveau. Voilà, ça, je suis désolé, c'est peut-être beau à voir, mais en tout cas, ce n'est pas très bon pour le cerveau. Et puis après, on a des trucs qui vont interagir sur le développement neuropathologique, sur le niveau d'inflammation et pas l'inflammation d'une articulation, l'inflammation au niveau cardiovasculaire, au niveau global, comme on disait tout à l'heure. Donc on voit les liens entre les deux. Voilà, donc l'activité physique va jouer, par exemple, sur l'inflammation également. Et puis, il y a un impact qui va être plus ou moins important selon le moment où vous faites l'action. Par exemple, l'éducation, bah, ça va être tout au long de la vie, mais si vous commencez tôt, bah, ça va jouer un peu plus, puisque vous aurez un peu plus de marge. Voilà. Tout ce qui est moitié de la vie, jusqu'à 65-70 ans, bah, ça va être les troubles d'audition, le cholestérol, la dépression, les traumatismes crâniens, l'activité physique, la prise en charge du diabète, le tabac arrêté, l'hypertension, l'obésité, l'excès d'alcool. Voilà, tout ça, c'est des éléments qui vont, d'une façon ou d'une autre, avoir un impact. Et si on les prend en charge, vont avoir un impact cumulé pour limiter le risque de développement. Et puis, à un stade plus tardif, l'isolement social, probablement que ça se traduit plus tardivement parce que les gens sont moins isolés quand ils sont plus jeunes, naturellement. La pollution de l'air. Alors, c'est pas on parlait sur les études, c'est les microparticules ou des particules plus ou moins importantes. Et en fonction du type de particules, vous avez des risques différents. Donc, ça commence à être bien démontré, mais ce n'est pas au niveau des modulateurs endocriniens. On est plutôt sur des particules dans l'air et trous visuels. Voilà, donc vous avez un truc qui ressemble à ça, avec les différents éléments en fonction de tout au long de la vie. En gros, il y a 45% de formes de troubles cognitifs qui sont modulables ou délégables. On peut les mettre plus tard, donc ça, c'est un élément très important. Voilà, ça, donc, c'est facteur de risque, je vais en parler. J'en ai déjà parlé. Voilà, mais je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup, docteur Roche. Avant de prendre vos questions, une question de ma part. Donc, au début de votre présentation, on voit que 2 malades sur 3 sont des femmes. Est-ce dû au nombre mathématiquement plus élevé de femmes parmi les personnes âgées? Ou bien sont-elles plus susceptibles de développer la maladie? Est-ce qu'elles ont une réserve cognitive moins importante que les hommes?
C'est dangereux, votre question. Je dirais qu'il y a un effet effectivement de population qui existe. C'est-à-dire qu'en fait, à 90 ans, il y a quand même beaucoup, beaucoup plus de femmes que d'hommes. Automatiquement, vu que la maladie est plus fréquente avec l'âge, il y a un effet qui est lié à ça. Après, on est quand même un peu différents. Les hommes et les femmes sont un peu différents. Il y a également des éléments autres qui peuvent jouer. Mais il y a aussi l'effet fréquence. Donc, après, les femmes vivent plus longtemps, donc ça veut dire que c'est un peu protecteur quand même d'être une femme.
Est-ce qu'il y a des questions dans la salle?
Alors, moi, j'avais été surprise dernièrement quand j'avais écouté un neuroradiologue qui disait que pour bien maintenir son cerveau, pour le soir, avant d'aller se coucher, il fallait boire un verre de limonade. Et il expliquait ça par le fait que le cerveau baigne dans un liquide et qu'il ne doit pas y avoir de problème de déshydratation et que par ailleurs, le sucre, c'est l'aliment du cerveau. J'ai été étonnée. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Je n'ai pas vu l'étude sur laquelle il se base, mais je pense que c'est plus une pratique personnelle qu'un niveau de preuve. Si on prend trop de sucre, c'est un effet négatif, on l'a vu. Et puis on se réhydrate mieux avec de l'eau qu'avec de l'eau sucrée, à ma connaissance, puisque ça donne soif en général quand vous mangez des aliments sucrés. Voilà, je pense qu'après, c'est des habitudes. Si ça, le sucre aide en général à s'endormir. Je pense que ça peut être aussi un élément sur lequel on peut mettre en avance. Moi, je n'aurais pas tendance à mettre ça comme précaution pour limiter le risque de développer une maladie d'Alzheimer, en tout cas.
Oui, j'ai une question sur la sociologie des personnes atteintes par Alzheimer. Est-ce qu'il y a une catégorie sociale particulière durement touchée par Alzheimer ?
Alors, tout le monde peut être touché par une maladie d'Alzheimer. Toutes les professions peuvent être touchées par une maladie d'Alzheimer. À un moment donné, on avait l'impression que les gens qui avaient un très haut niveau d'études, en fait, étaient protégés de la maladie d'Alzheimer. En fait, ils ne sont pas protégés de la maladie d'Alzheimer, ils décalent simplement, comme j'essayais de le démontrer, le début de l'apparition des signes cliniques de la maladie. C'est-à-dire qu'il faut plus de lésions, que, comme ça a été démontré très bien par, montré très bien par les précédents orateurs, il faut plus de lésions pour que ça commence à parler cliniquement. C'est-à-dire qu'en fait, votre cerveau, quand il a l'habitude de traiter les informations et de traiter les informations de façon différente, il va falloir qu'il y ait beaucoup, beaucoup de lésions pour que tous les mécanismes que vous pouvez utiliser pour développer une réponse soient touchés. Et souvent, ce qu'on observe pour les gens qui ont un très haut niveau intellectuel, c'est que quand les premiers signes cliniques apparaissent, souvent, ça évolue assez vite après. C'est-à-dire qu'ils ont compensé, ils ont compensé, ils ont compensé. Voilà, donc c'est une réponse indirecte. Après, par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure sur le niveau de stimulation cérébrale au travers du travail, plus le travail va solliciter de façon variée votre cerveau, plus en fait vous augmentez un petit peu cette marge de réserve. Donc voilà, donc si vous avez un boulot très répétitif et qu'à côté de ça, dans la vie quotidienne, vous ne faites pas grand-chose pour stimuler votre cerveau, ça va être négatif. Si vous avez un travail stimulant peu, mais à côté de ça, vous faites des choses au niveau associatif et tout ça, vous compensez un petit peu. Ce qu'il faut, c'est surprendre votre cerveau, c'est faire des choses variées. Si on fait toujours la même chose, ça devient un automatisme et ça ne stimule plus. C'est un peu ça l'idée.
Il faut changer de travail souvent.
Ça peut être une technique. En tout cas, changer de... varier assez, assez fort.
Je voulais demander, lors d'une précédente conférence, il avait été posé la question de développer, comme le médicament n'arrivait pas, de développer une approche non médicamenteuse et justement de stimulation pour freiner l'évolution. Et donc, moi, je me suis mis à chercher, je suis à retraite, donc je vis seule, donc j'ai moins d'interactions sociales, etc., etc. Alors, donc j'ai cherché un atelier mémoire. Bon, je suis sur une ville de 100 000 habitants, Roubaix, c'est très très difficile. J'en ai trouvé un à Villeneuve-d'Ascq, mais c'est des personnes qui n'ont aucune formation là-dessus, sur la maladie. C'est des gens qui aiment bien faire des jeux. Bon, c'est chouette, on a des interactions, on fait des jeux. Mais il y avait une jeune en service civique, elle n'a pas pu bénéficier d'une formation, elle était très demandeuse de savoir ce qui pouvait être utile, mais il n'y avait pas de financement, son centre social n'avait aucun financement pour qu'elle puisse bénéficier d'une formation. Donc voilà, je voulais donner ce témoignage et dire que bien qu'on puisse essayer de... Voilà, c'est pas encore ça, quoi.
Il y a le côté professionnel et le côté amateur, je dirais. Mais rencontrer des gens dans un atelier de jeu, un atelier de couture, un atelier de ce que vous voulez, ça sera efficace. Voilà. Donc après, si on est sur un stade maladie où la personne a des troubles cognitifs débutants et que, par exemple, on prescrit des séances d'orthophonie, il faut, en général, c'est certains types d'orthophonistes qui ont une formation et qui vont adapter en fait aux difficultés des gens, par exemple pour travailler sur le langage, la dénomination, la mémorisation de tâches. Voilà. Et là, surtout dans ces cas-là, on évitera de mettre les gens en situation d'échec. Parce que si on met en situation d'échec, les gens s'opposent, les gens qui ont des dysfonctionnements, et ça crée des tensions. Voilà. Donc surtout, ce n'est pas la même chose de faire de la prévention précoce avant les troubles cognitifs, où là on peut faire à peu près, si on vous met en échec, ou pire, vous râlez, mais ça ne va pas aller trop loin, que quand vous avez des troubles cognitifs, là ça va être plus compliqué à gérer. Hein, parce que souvent la personne, pas tous, mais souvent sous-estime ses difficultés, et quand on les met sur une tâche qu'ils ne savent pas faire, on pointe leur insuffisante et c'est souvent très très mal vécu au niveau psychologique. Donc il faut stimuler sans être scolaire. Je vais prendre un exemple simple et un peu caricatural, mais qui va bien vous montrer les choses. J'ai vu il n'y a pas très très longtemps en consultation une dame et sa fille. Donc, je vois la patiente, puis après, je vois sa fille. Et puis, souvent, il y a des petites questions quand je vois la patiente pour voir un petit peu où on en est au niveau de l'évolution des difficultés. C'était un suivi. Et puis, aujourd'hui, elle n'était pas très, très bonne sur l'orientation temporelle. D'accord ? Et du coup, quand je fais entrer sa fille avec l'accord de la patiente, j'explique un petit peu ce qui s'est passé et que aujourd'hui, elle a eu du mal à trouver la date du jour. Et à ce moment-là, la fille s'est retournée vers elle en disant « Mais maman, on a révisé en salle d'attente. Pourquoi tu ne l'as pas dit chez le docteur ?» Voilà. Donc, quand ça devient trop scolaire, ça ne marche pas. C'est ça. Il faut que ça soit du plaisir. Voilà. Ne révisez pas en salle d'attente. De toute façon, le docteur, il saura faire. OK ?
Y a-t-il un impact de la qualité du sommeil, type apnée du sommeil sur le...
Oui, bien sûr. Alors, en fait, ce n'est pas marqué dans cet étude-là, je ne l'ai pas vu en tout cas, mais en fait, oui, les syndromes d'apnée du sommeil non appareillés sont un facteur de risque important. Déjà, la qualité du sommeil semble être un facteur important. Hein, et les apnées du sommeil s'entraînent des hypoxies très importantes régulières, plus ou moins importantes, qui font que... vous avez en fait une baisse d'oxygénation de votre cerveau et donc vous allez développer des lésions vasculaires plus importantes. Donc la prévention, le dépistage, il y a de plus en plus de choses qui se font maintenant sur les apnées du sommeil et pas que les ventilations, il y a des alternatives médicamenteuses, enfin, il y a pas mal de choses qui commencent à sortir. C'est fréquent, toutes ne doivent pas être traitées, mais quand ça impacte sur la qualité du sommeil avec des gens qui sont épuisés le matin, puis il y a des enregistrements, il y a plein de choses qui permettent de porter ce diagnostic. Oui, bien sûr, les apnées du sommeil jouent. Oui ?
Juste un petit mot. Nous avons sorti le premier numéro d'une revue qu'on appelle Synals et qui traite justement Alzheimer, du sujet Alzheimer et sommeil. Alors, je ne sais pas si c'est disponible ici, mais en tout cas, sur le site de la Fondation Recherche Alzheimer, vous pouvez très bien...